concerne, je vais vous parler un petit peu de ce qui a été fait au niveau des travaux de la commission. Suite à justement certaines de nos demandes, donc on a planché un petit peu sur comment vous aider. Alors, au niveau de la commission, qui ont travaillé sur le projet, donc c'est Béatrice Leroy, Isabelle et moi-même. Alors, l'objectif, en fait, de cette commission, c'était de vous aider, justement, par rapport à toutes ces questions autour des analyses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment les interpréter, est-ce qu'on peut les interpréter ou pas. Et donc, la première chose que vous avez déjà eue aujourd'hui, c'est les informations que Véronique vous a fournies, donc ça va continuer cet après-midi. Et l'autre chose qu'on s'est dit aussi, c'était pas suffisant en termes de documentation, comment faire face justement au fait qu'en tant que nutrithérapeute, et je précise ici non-médecin, nous sommes amenés par moment à suggérer des analyses, et comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc on n'a pas le droit de cocher, pratiquement de cocher les cases sur les analyses qui sont fournies par Similab. Donc du coup, on s'est dit comment faire pour essayer de solliciter le médecin à faire certaines demandes d'analyses qui nous paraissent judicieuses. Et je rappelle bien, ici, c'est dans l'objectif non pas de faire un diagnostic, ça je crois que ça a été assez clairement défini tout à l'heure, mais bien de nous aider dans la prise en charge du patient pour cet aspect nutritionnel. Et donc la première chose sur laquelle on a travaillé, c'est un document. Alors ici j'ai pris juste un extrait parce que l'objectif n'est pas de revoir en détail les documents. Donc un premier document qui est adressé au médecin que vous allez donner par l'intermédiaire de votre patient. Alors, c'est l'occasion, là, justement, de pouvoir y mettre les informations, en tout cas, les types d'analyses que vous suggérez. Alors, dans ce document, comme vous pouvez voir, donc je l'ai scindé en plusieurs parties, donc il y a l'en-tête, donc là, vous aurez vos coordonnées, ainsi que la manière dont ça va être formulé, ça, on est encore défini, et le fait que le logo donc, de l'UDNF, c'est aussi garant encore de la qualité, le fait que vous êtes formé et que ces demandes-là ont été réfléchies de manière conjointe. Alors, il y a justement un petit mot d'introduction pour le médecin, pour bien recadrer les choses, que l'objectif n'est pas en soi de faire un diagnostic, mais bien de nous aider dans la prise en charge du patient par rapport au fait de ces excès, de ces carences, voir comment on peut les contrer via l'alimentation et d'autres conseils. On a eu une petite remarque d'un médecin qui nous dit « ce serait peut-être bien quand même que vous mettiez un merci ou paraphé », enfin voilà. Donc vous pouvez toujours, parce que c'était écrit, il y avait quand même une phrase qui était écrite comme quoi on remerciait, mais donc n'hésitez pas à paraphé, rajouter un merci, donc le fait que vous personnalisez aussi le document. De toute façon, vous personnalisez aussi en mettant le nom de la personne qui va lui faire l'analyse. Alors comment est-ce que ça a été construit, ce document? On a essayé de faire des catégories où on y a mis les demandes qui nous paraissent les plus pertinentes par rapport à nos conseils. Maintenant, comme on met bien dans l'encart, ce ne sont que des suggestions. Si le médecin veut, quant à lui, faire d'autres demandes, c'est sa responsabilité puisque c'est lui qui va cocher de toute façon sur l'analyse. Alors, c'est aussi l'occasion d'highlighter certaines demandes. Puisque souvent, je prends l'exemple de la thyroïde, très fréquemment, c'est TSH, T4 qui sont demandés. Et donc là, c'est l'occasion au fluo, enfin peu importe, mais de bien montrer l'intérêt. Donc allez-y, personnalisez ce document-là pour montrer justement l'importance de prendre plutôt la T3 que la T4. Et on a essayé pour chacune des demandes d'y inclure quelques mots d'explication. Maintenant, on ne fait pas tout un cours par rapport à ça, mais que pourquoi donc ça nous permet de justifier pourquoi on demande cette analyse. Et l'idée, c'est aussi de faire le lien avec l'alimentation, la nutrition, en tout cas les corrections que l'on peut apporter. Alors l'autre information qu'on a voulu y ajouter aussi, c'est la notion de prix. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des analyses qui sont remboursées et d'autres qui ne le sont pas ou du moins qui demandent un complément. Donc pour moi c'était super important de mettre ça en avant parce que certaines de ces analyses sont coûteuses. Et l'idée, c'est pas de faire des analyses à tire-larigot et que le patient se revient avec une note pas possible et puis on vient avec des compléments. Et finalement, ben voilà, on a une vitesse, une médecine à deux vitesses. Donc, il y a aussi cette notion d'acceptabilité du patient par rapport au prix. Donc, vous allez vous retrouver avec des personnes qui n'ont peut-être pas toujours les moyens de faire certaines choses. Et donc, c'est de commun accord aussi, vous leur en parlez, de dire, écoutez, attention, vous savez, ça va vous coûter ça. Voilà. Et donc Véronique, vous a parlé justement des alternatives éventuellement qui pouvaient être remboursées ou non. Donc pour moi, c'est important que nous-mêmes soyons conscients de ce qu'on demande en termes de prix et qu'on ait l'accord du patient dans cette démarche également et qu'il ne se retrouve pas avec une note dans laquelle il n'y était pas du tout attendu. Alors il y a aussi à la fin de la page, donc c'est une page CaptoLexa. À la fin de cette page, vous voyez, donc, il y a un versionning. Et l'idée, comme vous l'avez vu dans le monde scientifique médical, les choses évoluent en fonction des nouvelles connaissances. Et donc, c'est que ce document vive. Alors, vive sur base des nouveautés, mais vive aussi sur base de nos propres expériences. Et donc, l'objectif, ben, c'est de mettre à jour régulièrement sur base de ces informations. Donc, ce document-là est à remettre à votre patient qui lui-même va le remettre au médecin. Alors il y a pourquoi on l'a fait ici sous forme de documents séparés Word. Bien, on ne peut pas nous forcer le médecin à aller vers un labo ou un autre labo. C'est pas notre responsabilité non plus. Le médecin, bon, voilà, c'est sa décision finale de savoir de choisir le laboratoire. On peut éventuellement suggérer, parce qu'on sait que certaines analyses se font dans certains labos, mais notre objectif n'est pas de forcer le médecin, bien sûr, par rapport à ça. Donc on doit garder une certaine neutralité aussi vis-à-vis du choix du labo, puisque ce n'est pas notre responsabilité. Alors, deuxième document sur lequel on a travaillé, c'est un document qui est à remettre aux patients, et c'est vraiment des aspects pratiques. Donc l'objectif, c'est de se dire au niveau pratique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous devez faire par rapport aux analyses. Alors l'objectif ici, c'était pas de reprendre non plus toutes les analyses non plus, c'est par rapport aux prises de compléments, par exemple, s'il faut arrêter les compléments X heures avant. Donc il y a quelques précautions à prendre par rapport au type d'analyse qu'on demande. Et notre objectif ici est bien vis-à-vis donc, des compléments ou être à jeun ou des choses comme ça. Souvent, les informations sont données par le labo, notamment dans les kits. Et donc, on ne veut pas non plus se subtiliser par rapport à cette information. C'est vraiment des aspects pratiques. Alors, il y a notamment par rapport aux biologies sanguines. Je vous ai expliqué donc, l'histoire d'être à jeun par rapport à des efforts aussi que l'on pourrait faire également. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif ici. Et vous allez voir, vous pourrez le lire aussi. Donc, de nouveau, ce sera aussi en version. Donc, vous pouvez, si vous avez des commentaires, bien sûr, venir. Alors, il y a aussi par rapport aux urines. Alors là, ça, c'est peut-être une question que je me retrouve en réveillant. Donc, il faut savoir que les demandes sont basées sur des urines de 24 heures. Mais après discussion, après certaines informations qu'on a eues, justement, des informations réalisées par Sylvain, où on préconise maintenant de plus en plus les urines des 12 heures. Maintenant, pratiquement en termes de demande d'analyse, là, je pense que je ne sais pas très bien comment faire pour que que le médecin mentionne que c'est 12 heures et pas 24 heures. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose sur laquelle tu pourras répondre par la suite. Et on complétera dans le document. Alors, pour les analyses salivaires et de sel, bien sûr, il y a chaque fois, donc dans les kits, vous avez une description détaillée de ce qui est à faire. Et comme je disais, notre objectif n'est pas de recopier tout ce qui est déjà mentionné, mais bien d'adapter certains mots. Alors, troisième document, qui est un document assez conséquent, plus ou moins d'une vingtaine de pages. L'objectif est un petit peu donc, pour faire suite à ce qui, ce qui est expliqué par Véronique, c'est de vous remettre une série de tableaux ou d'explications par rapport aux interprétations. Mais là, je mets de nouveau le principe de précaution. Donc, je rappelle, notre objectif n'est pas d'interpréter les malheurs pour faire un diagnostic ou non. C'est, on est bien d'accord que ça nous aide à nous guider dans le choix de ce qu'on va proposer au niveau des conseils alimentaires et autres. Donc ça, c'est la première chose qui sera rappelée d'ailleurs dans le document pour que les choses soient claires par rapport à ça. Alors, dans ce document, donc, on a repris les mêmes analyses qui sont fournies forcément, enfin, qui sont demandées ou proposées aux médecins. Mais on en a rajouté aussi quelques-unes supplémentaires qui sont couramment utilisées. Juste comme ça, ça vous donne une idée un petit peu. Mais bon, voilà, ça ne va pas spécialement vous aider dans vos analyses. Mais enfin, voilà, donc c'est les plus courantes par rapport à ça. Alors ici, l'objectif de ce document, bien sûr, c'est un document pour les nutrithérapeutes, au départ, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas tout repris, mais s'il y a des nutrithérapeutes, médecins qui désiraient avoir un document plus complet et qui, pour lesquels ils sont intéressés donc, à ce qu'on élabore ce genre de document, on peut envisager de refaire une sous-commission avec les médecins à ce moment-là pour développer ce genre d'outil. Je dis bien les médecins membres de l'UDNF qui sont nutrithérapeutes, c'est pas pour les médecins. Les autres médecins, on est bien d'accord par rapport à ça. Donc l'objectif, c'est vraiment un outil de travail justement pour vous guider au mieux dans les conseils alimentaires. Alors ben voilà, c'est le genre de tableau qui seront fournis en gros. Alors, en gros, par rapport aux valeurs et tout ça, donc notre idée, c'était pas d'aller de se dire, ok, si on a telle ou telle valeur, donc c'est à la grosse louche aussi par moment de se dire, oui, si on est trop haut, trop bas, mais parfois un trop haut, trop bas, c'est pas toujours évident, tu auras tous les documents par rapport à ça. Et alors, de mettre en highlighter aussi certaines notions qui sont. Plus importante, sur laquelle il faut plus faire attention, quelques commentaires également. Donc voilà, ça, ce sera le genre de document qui vous sera fourni et qui sera disponible sur le site intranet de l'UDNF dans la partie commission. Donc il sera disponible dans la semaine ici. On va le réajuster un petit peu par rapport à justement aux questions et réponses qu'on aura abordées aujourd'hui. Mais je voudrais remercier Pierre et Isabelle parce que tous ces documents, en fait, on n'est pas parti de rien du tout. Ce sont des documents que Isabelle et Pierre avaient déjà initiés et qui nous ont mis à disposition pour travailler dessus. Donc, je pense que là, ça mérite un big applaudissement parce que je peux vous dire que le tableau Excel d'Isabelle, quand on l'a repris, je le dis, c'était des mois de travail où on a rempli ça au fur et à mesure. Et voilà, donc Pierre et Isabelle ont accepté de mettre à disposition. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'était repartir de là et le retravailler pour qu'il fitte un petit peu plus à ce qu'on a discuté aujourd'hui, remettre à jour justement par rapport à ces données. Quoi. Donc voilà, moi, c'est un bel exemple, je trouve, de partage. Je trouve que ça mérite d'être mis en valeur. Voilà, je propose maintenant de poursuivre la discussion. Si vous avez peut-être des questions par rapport à ce point-là.
Oui. Moi, j'ai une question qui revient quand on fait des demandes justement aux médecins traitants. Ils disent qu'ils doivent rendre des comptes à l'INAMI. Je ne suis pas médecin.
Oui.
Et souvent, c'est pour ça qu'il y a plein de. Ils ne veulent pas cocher, ils ne veulent pas de soucis. Donc, c'est souvent ça. Mais quand je les ai en ligne, ils disent ah non, moi, l'INAMI.
Alors, donc on est bien clair par rapport à ça. On ne peut pas forcer le médecin. Et c'est pour ça que l'idée de fournir un document qui justifie pourquoi on demande ça, ça lui permet aussi de pouvoir se justifier aussi vis-à-vis de l'INAMI.
Ce serait peut-être utile que nous, qu'on comprenne aussi peut-être ce que l'INAMI attend de mettre. Parce que c'est vrai que moi, quand on
dit ça... L'INAMI, c'est le moins possible de... Oui. Moins il y en a, mieux c'est quoi. Hein,
donc, ceux qui sont du lot, on leur demande
Voilà, tout à fait. C'est vraiment un truc numérique, hein. C'est pas.
Parce que je pense que c'est ce côté-là qui bloque aussi, parce qu'ils le disent clairement. Moi, j'en ai eu plusieurs. C'est pas ouais. qu'ils sont contre. Après, ils doivent donner des comptes à l'INAMI. Ils n'ont pas envie de rentrer dans ces.
Peut-être que ça pourrait être un travail. Mais je dis, c'est peut-être pas à notre niveau. C'est peut-être plutôt au niveau des médecins. S'il y a suffisamment de médecins nutrithérapeutes ou autres qui s'intéressent, je veux dire, à la partie fonctionnelle des analyses, c'est peut-être à eux de remonter le point au niveau de l'INAMI et peut-être expliquer justement ce rationnel. Ou peut-être les labos aussi, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que nous, en tant que nutrithérapeutes, on puisse frapper à la porte de l'INAMI et dire, écoutez, les gars, c'est bien gentil, mais voilà. Donc il faut, voilà. Il y a des moments où on peut faire quelque chose, mais là, je pense que on n'a pas trop le mandat, je pense, pour pouvoir justifier ça. Mais par contre, on pourrait aider les médecins ou avec les labos pour essayer de justifier. Autre question ?
Si je peux peut-être moi dire ça. Certains médecins ont peut-être peur de cocher les analyses à partir du moment où les analyses ne sont pas remboursées. Ça ne rentre pas dans leur profit. Donc si ça les ennuie de faire une insulinémie et une glycémie à jeun pour faire un OMA, alors je ne vois pas ce qu'ils bloquent. À partir après du moment où une analyse n'est pas remboursée par l'INAMI, l'INAMI n'a rien à dire puisqu'ils ne doivent pas sortir l'argent de leur poche par la suite. Maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans des excès, mais moi qui suis en contact depuis pas mal d'années maintenant avec des médecins nutritionnistes, même des médecins nutritionnistes, je vais en citer un qui n'est peut-être pas mon préféré, je vous jugerai vous-même, mais même un monsieur comme le docteur Hertog, qui fait des analyses hyper poussées avec des prix de dingue, j'ai pas encore entendu qu'il avait eu des soucis avec l'INAMI. Donc lui qui fait des prises de sang à minimum 500 euros, je veux dire, plus le reste, j'ai encore jamais entendu qu'il avait un souci. Donc je ne vois pas pourquoi un médecin généraliste qui va cocher une fois de temps en temps quelques analyses, on va lui taper sur les doigts.
Mais est-ce qu'il y a des médecins dans la salle à qui c'est arrivé et qui puissent partager une expérience? Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi. On a un peu peur de certaines choses parce qu'on pense que ça va arriver. Si ça tombe, voilà, comme tu le mentionnes, les problèmes. Que l'on imagine mais ne sont pas réels en statistique. Je veux dire, ce sera peut-être un cas, mais ce n'est certainement pas. Et puis, il faut savoir que, je veux dire, ce genre de demande qui arrive aujourd'hui, ça ne court pas les rues non plus. Donc, ça veut dire que le médecin va peut-être voir une ou deux fois un patient qui vient avec ce genre de demande. Donc, dans sa pratique de tous les jours, il en voit je ne sais pas combien.
Parce qu'ici, le document, il est destiné au médecin qui ne fait pas forcément de la nutrition, il ne serait pas plus chez nous. Si son médecin traitant fait déjà tout ce qu'on fait,
tout à fait.
Ils ne vont pas le démarcher.
Tout à fait.
Le médecin qui fait continuellement aujourd'hui dans ma région des médecins nutritionnistes, ben, les patients ne viennent pas chez moi, ils vont chez
voilà,
lui.
Voilà, aussi.
Et le médecin qui va prescrire nos biologies 10, 15, 20, 30 par an n'a aucun risque. Ça va être très anecdotique. Mmh. Et ça peut être intéressant pour nous en tant que nutrithérapeute, parce que moi j'ai eu des médecins qui m'ont téléphoné qui ont trouvé ça intéressant. Tiens, pourquoi vous avez demandé ça? Ça peut justement avoir une entrée chez le médecin. Tiens, on peut peut-être se rencontrer pour faire connaître aussi votre cabinet. Ça, c'est un moyen aussi de présenter. Tiens, vous êtes allé chez qui? Ça montre aussi le CIE. Hein, on se base aussi sur des biologies. On n'interprète pas, mais on va voir ici le fer. Si on a une dame qui a une ferritine d'indice, ben, le médecin sera content. Là, on peut le justifier comme ça.
Il y a un médecin qui n'a pas voulu le faire parce qu'il dit que ne pourront pas les lire. Donc, il ne veut pas prendre la responsabilité de cocher des choses que lui ne peut pas interpréter.
Ben, tu dis qu'on peut passer chez lui et lui expliquer un petit peu.
Oui.
Mais c'est ça. Donc, je pense que l'objectif...
Non, mais on peut dialoguer.
Voilà,
c'est... Ça m'arrive très souvent de téléphoner au médecin et je lui explique.
Voilà.
Et c'est pour ça que vous avez cette formation. Parce qu'on ne veut pas que vous cochiez quelque chose sans rien comprendre. Donc si vous cochez quelque chose, vous devez être à même
pouvoir le justifier
au médecin
et l'expliquer.
Pourquoi vous avez demandé ça? C'est essentiel. C'est pour ça qu'il y a la formation. Sinon, elle n'a pas de sens.
Et je pense qu'il faut rester vraiment dans l'esprit de collaboration. Donc notre objectif n'est pas de remplacer qui que ce soit dans un sens comme dans l'autre. C'est vraiment l'esprit de travail en collaboration qui nous permettra, en finale,
c'est d'aider le patient. C'est pas notre ego ou quoi que ce soit. C'est ça l'objectif. Et donc, si on peut justement avec le médecin, s'il a des questions, on doit être amené à pouvoir lui répondre et l'aider dans cette démarche. Quoi.
Et c'est ce que la première phrase de la biologie que j'avais rédigée, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, c'est expliquer au médecin le pourquoi on demande cette
tout
biologie et on le remercie justement de ça.
Voilà.
Parce qu'on a des médecins aussi qui reprochent aux nutritionnistes, diététiciens, de dire, mais tiens, comment il sait que vous avez besoin de plus de magnésium? Comment il sait que vous avez besoin de manger plus de viande? Plus de moment donné, ben, nous aussi, on a nos limites et on justifie qu'on a besoin de l'aide du médecin. Parce que est-ce que je dois donner plus ou moins d'oméga 3, plus d'huile de bourrage? Ben, j'en sais rien, donc j'ai besoin de votre aide si je veux faire un bon plan alimentaire. Et là, on en revient justement au travail du nutritionniste, du diététicien, du nutrithérapeute, de faire le programme le plus personnalisé pour notre patient. Et comme on n'a pas tous les outils, ben c'est intéressant justement de suggérer au médecin de donner un coup de main pour qu'au final, le patient se retrouve avec un bon plan alimentaire le plus personnalisé possible.
Je me rends compte, je tiens un micro, mais je vois plutôt que
non, mais voilà. Attends.
je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu une journée un peu à l'envers. Hein. Ok, mais donc je te laisse.
Oui,
quoi?
J'avais dit que je ne dirais guère, je ne sais pas ce que vous
avez. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de solution idéale. Et je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité du médecin. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui ne sont pas ouverts. Il n'y a pas de règle. Ça reste quand même compliqué de dire à un médecin vous ne connaissez pas, mais je vais venir vous expliquer, etc. C'est pas toujours bien perçu.
Mais ça peut être une porte d'entrée.
Mais voilà. Mais il y en a qui sont très réceptifs. Hein.
Il y en a
qui sont très réceptifs. Franchement, moi, ça m'est arrivé à un médecin qui dit, écoutez, je fais confiance, j'y connais rien, mais voilà, c'est intéressant. Il y en a, ils n'ont pas envie de se former, mais ils y croient. Bah, vous avez voilà, autant de cas qu'il y a de médecins, et donc c'est très difficile de... Voilà, mais il faut le tenter, en tout cas. Il faut le tenter. Et parfois, c'est le patient, il faut passer par le patient pour que lui insiste auprès de son médecin, et du coup, c'est plutôt le patient qui va réussir à motiver son médecin à faire la demande parce qu'il n'a pas envie de perdre son patient. Donc voilà, ce n'est en effet pas toujours simple. Donc on va...